la deuxième partie de Gironde Analyse, l'émission 100% supporter. C'est tout de suite sur RIG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur girondeanalyse.com.
Allez, bonsoir, bienvenue dans Gironde Analyse si vous nous rejoignez à l'instant. On vous rappelle qu'on est ensemble pour encore un petit peu moins d'une heure d'émission. Et on a ce soir l'immense privilège d'avoir avec nous le docteur Jean-Pierre de Mondenard, qui est un spécialiste du dopage et qui est donc auteur, on va le rappeler, de 40 ouvrages sur le sport en général et sur la question du dopage. Les derniers donc parus sont Dopage dans le football, La loi du silence aux éditions Gavsevitch est paru en 2010, 33 vainqueurs du Tour de France face au dopage aux éditions Hugo Sport paru en 2011, Histoire extraordinaire des géants de la route aux éditions Paris Hugo Sport paru en 2012, et un livre à paraître, Les grandes premières du Tour de France aux éditions toujours Hugo Sport. Et on retrouve à l'instant même le docteur de Mondenard. Rebonsoir docteur.
Bonsoir, je voudrais ajouter une précision à ce que vous venez de dire. C'est le livre, c'est pas apparaître, il est paru depuis le 30 mai.
Ah bon, j'ai repris ce que vous m'aviez dit dans l'email.
Exactement, mais c'était une information qui datait depuis un moment, mais le livre est paru depuis le 30 mai, Les grandes premières du Tour de France.
Eh bien écoutez, on incite tous nos auditeurs évidemment à se le procurer, surtout en cette période cycliste qui...
Et surtout, c'est parce que j'ajoute aussi, c'est que je n'écris pas pour avoir mon nom sur un bouquin et puis voilà, être content d'avoir son nom sur un livre. Donc moi, vous savez, je suis médecin, et quand on est médecin, on fait une thèse de médecine à la fin de ses études, oui. Et c'est une contribution à la connaissance. Et donc tous les livres que j'ai écrits, c'est une contribution à la connaissance. Donc dans mes livres, il y a toujours des informations qu'on trouve nulle part ailleurs.
Et je vais apporter une précision à ce que vous dites. Je vais préciser que si jamais on cite vos ouvrages, c'est pas parce que vous nous l'avez demandé, c'est parce que c'est moi-même qui vous ai demandé justement ce que vous aviez écrit et qui ai décidé de les citer. Hein. C'est pas vous qui avez voulu vous faire un coup de pub, et je tiens à le préciser. Docteur, on va recommencer du coup à parler des questions de dopage. Et la première question qu'on va vous poser donc sur le dopage dans le football, alors on va aborder donc dans la première partie de cette deuxième heure, la lutte anti-dopage. On va même y consacrer pas mal de temps. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est en quelle année, pour faire une sorte d'introduction, en quelle année ont commencé les contrôles antidopage donc dans le football? Est-ce que vous pouvez nous répondre à ça?
Oui, bien sûr. Je suis obligé d'abord de parler de la première loi antidopage française, qui à la suite de différents accidents dans différents sports, le pouvoir politique a décidé d'édicter une loi qui a été publiée au journal officiel le 1er juin 1965, et elle a été précédée par une loi belge. Donc la première loi au monde est une loi belge qui date du 2 avril 65, deux mois avant. La France, le 1er juin 65, mais pour qu'une loi puisse rouler sa vie, eh bien, il faut des décrets d'application. Et on va attendre une année, le 10 juin 66, pour avoir un décret d'application concernant la liste des substances interdites, car on ne peut pas faire de loi et, comment dire, sanctionner s'il n'y a pas de liste de produits prohibés. Et alors, le problème, c'est que dans cette liste de produits prohibés, eh bien, les noms des produits sont tellement cabalistiques que même les médecins ne les comprennent pas, et donc a fortiori les sportifs. Par exemple, vous avez la triméthylxanthine, personne ne sait ce que c'est, et en réalité c'est la caféine. Et c'est le plus simple ça, à trouver. Il y en a d'autres, de chlorhydrate de phényl-aminopropanol, c'est de l'éphédrine. Il y a différents produits qui sont difficiles à comprendre, mais peu importe, c'est pour montrer qu'au début, il y a toujours des balbutiements et que ça rentre pas de plein pied dans une efficacité maximale. Mais surtout, et ça c'est important pour tous les auditeurs, c'est que cette loi de 65 n'est pas une loi antidopage comme on nous le raconte partout, c'est une loi antistimulant. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, comme tout à l'heure je vous parlais des anabolisants, on pensait que c'était les vitamines, et bien à l'époque, au milieu des années 60, le dopage, ce sont les stimulants. on croit, les scientifiques croient que seuls les stimulants sont des dopants. Et on va s'apercevoir plus tard que les anabolisants sont aussi des dopants et qu'ils ne sont pas vraiment des stimulants. On va savoir que les bêta-bloquants, au contraire, qui ralentissent le rythme cardiaque, qui n'ont rien à voir avec des stimulants, sont également des produits dopants. Donc il y a toute une kyrielle, notamment les hormones, qui ne sont pas des stimulants proprement dit, qui font partie aujourd'hui de la liste des substances interdites. Vous voyez, donc au départ, la première loi du mal à s'implanter, et surtout, elle ne peut pas être appliquée pour la simple raison, c'est qu'il faut démontrer que la personne a pris le produit sciemment. Et donc tout de suite, grâce à des avocats complices, les sportifs vont mettre en avant qu'ils ont pris un bidon qu'on leur a tendu et qu'ils ignoraient que dedans il y avait un produit dopant. Bien sûr, c'est jamais comme ça qu'ils ont pris le produit dopant, mais peu importe. Devant un juge et devant un tribunal, eh bien, ils n'ont pas été condamnés. Il faut rappeler que les premiers contrôles ont eu lieu d'abord dans le cyclisme et en particulier dans le Tour de France, 66. Sur 12 contrôles, 6 positifs, ce qui veut dire en clair que 50% du peloton était positif. Et ensuite, progressivement, les résultats vont s'approcher de 1 ou 2%. Alors, pas parce que... Alors, bien que ça concerne les cyclistes, ça concerne l'ensemble des sports plus tard. C'est pour montrer que la lutte antidopage n'a jamais vraiment été très efficace. Et donc, très rapidement... Les cyclistes vont utiliser la pratique de la substitution d'urine, c'est-à-dire qu'ils se pointent au contrôle avec un flacon d'urine vierge. Ils ont demandé l'urine à l'un de leurs mécanos ou de quelqu'un de l'environnement qui n'a pas pris de dopant, et ils font le transvasement au moment du contrôle. Alors c'était facilité car à l'époque, il n'y avait pas un local spécial pour le contrôle antidopage. Ils faisaient ça dans l'ambulance. Du Tour de France, et c'est les infirmières qui leur donnaient le flacon, donc ils s'isolaient dans l'ambulance, donc il était très facile de tricher, et donc les résultats positifs sont descendus autour de 4%, et puis ensuite, quand on les a regardés d'un peu plus près faire leur manœuvre, eh bien ils ont changé de tactique, ils sont allés dans les substances indécelables, et donc les substances indécelables datent quasiment du début de la lutte antidopage. Et ça, c'est, et je l'affirme, Et c'est incontournable. Vous ne pouvez pas lutter contre le dopage s'il y a des substances indécelables.
On parle beaucoup notamment de...
Et les substances indécelables, elles datent du début de la lutte antidopage. Alors pour revenir directement au football, et comme la plupart des autres sports, le cyclisme va essuyer les pots cassés pendant au moins 10 ans tout seul. C'est-à-dire c'est le seul sport contrôlé pendant 10 ans. Et le premier contrôle antidopage dans le football, il va avoir lieu en 78, et les compétiteurs qui vont être contrôlés, attendez, je vais voir si je retrouve ce contrôle historique, et donc les premiers compétiteurs contrôlés, ils vont être avertis à l'avance. Donc c'était très facile de tricher. Alors attendez, je vous dis ça si je le retrouve, mais
peut-être.
Voilà, c'était lors d'un match, voilà, dépistage biologique lors du 32e de finale de la Coupe de France. C'était entre Strasbourg et Paris FC, D1 D2, le 28 janvier 78. Contrôle annoncé à l'avance et bien entendu contrôle négatif.
D'accord.
Voilà, donc le tout premier contrôle en France, dans le football, 78, je vous rappelle que les cyclistes ont commencé en 66.
Eh oui, ça fait quand même un écart assez grand. Alors justement, comment est-ce qu'aujourd'hui cette lutte antidopage elle opère dans le football ? Alors vous nous avez parlé tout à l'heure, non, enfin tout de suite même, qu'on prévenait les athlètes. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Non, mais à l'époque de Giroud, de Tapie, on prévenait encore. Il y a certains qui étaient prévenus. D'ailleurs, Giroud mettait en cause Tapie et son bras et son long bras. pour avoir des informations avant tout le monde concernant les contrôles qui étaient appliqués sur Marseille. Voilà, donc il est clair qu'il y a des fuites, il y a toujours des fuites, et c'est le cas de le dire à propos de contrôle urinaire. Il y a toujours des fuites et donc il y en a qui ont plus d'entre-gens, de présence dans les instances et qui sont prévenus plus à l'avance que d'autres. Alors aujourd'hui, je pense pas qu'ils soient prévenus très à l'avance, mais les contrôles sont faits, comme je le disais tout à l'heure, sous forme de cure, et que le jeu, c'est d'arriver au moment du contrôle négatif. Et qu'à partir de ce moment-là, les contrôles a posteriori, c'est-à-dire les contrôles après les matchs, ont peu d'intérêt parce qu'ils sont tous préparés pour être négatifs. Donc on perd son temps, son argent, il faut faire des contrôles improvistes. Et on l'a vu, rappelez-vous, lors de la Coupe du Monde 98, lorsqu'un médecin a eu l'outrecuidance de se pointer à Tignes pour faire un contrôle à l'équipe de France, et il a vraiment été mal reçu, il a vraiment mal vécu cet épisode, c'est monté jusqu'au ministre des Sports, qui était Marie-Georges Buffet, elle s'est fait tenser par un ensemble de personnages douteux, et voilà, donc l'action antidopage est compliquée, de toute façon, tant que la lutte antidopage sera entre les mains du monde du sport, il n'y a pas d'espoir que ça marche. Est-ce que vous connaissez un jury d'assises ou c'est la propre famille du prévenu qui le juge?
Non.
Est-ce que vous connaissez un PDG délégué syndical? Non. Eh bien, dans le sport, c'est on demande à une fédération de valoriser le sport et pour obtenir le plus de licenciés possible et de performances par ses équipes. Et parallèlement, on lui demande d'éliminer tous les tricheurs. Donc, c'est de demander à une fédération de se tirer une balle dans le pied. C'est pas possible, ça ne marchera jamais. Ça fait 50 ans que la lutte antidopage est entre les mains du monde du sport. 50 ans que ça marche pas. 50 ans qu'on continue. 50 ans que les affaires de dopage s'accumulent. Chaque fois, c'est une énième affaire. Hein, quand l'affaire Armstrong, on lui a retiré ses 7 titres. Cette victoire en Tour de France, j'ai dit dans les médias, si on traite l'affaire Armstrong de cette façon, eh bien c'est une énième affaire et on repart pour un tour. Il faut virer la lutte antidopage du monde du sport et notamment des fédérations et notamment des fédérations internationales. Il faut plus que les fédérations aient à s'occuper des contrôles antidopage d'eux-mêmes. Et ça concerne plus particulièrement le football, mais d'autres sports d'équipe. Les arbitres, ils doivent pas être sous la coupe des fédérations. Ça, c'est mission impossible aussi. Hein, les clubs, les sous-doigts, pas de façon forcément directement avec des billets verts ou autres. Ils les mettent dans un environnement. Ils les invitent dans les plus grands restaurants, les plus grands hôtels, avec des escort girls, etc. Ils filent un cadeau. Voilà, donc l'arbitre, sur un terrain, il n'a plus la même perception de l'éthique sportive avec ce genre de.
C'est une sorte de dopage, finalement. Aussi,
pardon ?
C'est une sorte de dopage aussi, finalement.
Complètement, puisque tout. Oui, c'est le dopage des dirigeants, ça, d'influencer les arbitres. Donc l'arbitrage, il doit être complètement en dehors des fédérations. Ça, c'est encore une absurdité du monde du sport. Tant qu'on laisse les ingrédients pour que la corruption soit maximale, pour que la magouille soit maximale, pourquoi ça changerait? Non, il n'y a aucune raison. Et là, on est dans ce système-là depuis des décennies. Et à propos du cyclisme et de ce qui se passe actuellement, de virer le président du CI, Pat McQuaid, de virer son prédécesseur, Hein Verbruggen, ça ne changera rien. C'est de virer l'UCI, puisque tous les présidents de l'UCI ont le même comportement. Tous les présidents de la FIFA ont le même comportement. Attendez, Sepp Blatter, pendant des années, il sortait dans les médias que le dopage ne sert à rien dans le football. Attendez. Et puis un beau jour, il a dit « Ah oui, je me suis trompé ». Et puis quelques temps plus tard, il a repris son bâton de pèlerin pour raconter aux foules que le dopage ne sert à rien dans le football. Récemment, J'ai lu une interview de Nadal que le dopage ne sert à rien dans le tennis. Bien sûr, le dopage il sert à rien chez personne. Voilà. Donc on nous raconte. Et moi, ce que je reproche, c'est que les journalistes font l'interview, laissent parler le Nadal, laissent parler Blatter, et nous disent ça. Mais attendez, là, vous nous racontez des histoires. Il y a aucune raison, aucune raison morphologique, physiologique, métabolique, technique, tactique, qui empêche que le dopage soit efficace dans le football.
Bien sûr.
Aucune.
Je voulais, vous nous avez parlé des fédérations et de leur rôle, selon vous, très douteux au sein de ce dopage. On parle aussi, par exemple, donc de l'AMA que vous avez cité, donc l'Agence mondiale antidopage, de l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, alors qui ont plutôt une réputation vertueuse dans le monde du sport et dans le monde de la lutte contre le dopage. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu ce que vous en pensez, et également revenir sur les notions d'une autre chose qui paraît vertueuse, c'est le passeport biologique dont on parle énormément, et que vous nous donniez peut-être justement le chiffre des contrôles aussi qui ont été prodigués dans le football. Voilà, ça fait beaucoup, mais...
Alors,
donc d'abord la FLD et l'AMA, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors il faut rappeler que l'AMA a été fondée à la suite du tsunami Festina, c'est-à-dire l'éviction de l'équipe Festina sur le tour 98 a entraîné un chamboulement international et le CIO pour effectivement prendre la main, s'il est en train de la perdre, prendre la main, crée l'Agence mondiale antidopage. D'ailleurs, l'UCI a fait pareil. Elle est en train de prendre la main, perdre la main ces temps-ci, et donc elle crée une commission pour faire un audit de l'implication de l'UCI dans la lutte antidopage et éventuellement ses carences. Et puis elle a vite éliminé cette commission et elle en a créé une autre, tout aussi fantôme, pour uniquement prendre la main. Donc le CIO prend la main en 99 en créant l'Agence mondiale antidopage. Alors pour se donner belle figure, on crée à parité entre les gouvernements et le mouvement olympique une structure bipartie qui est composée à moitié de membres des deux entités. Et donc on met à la tête, on est en 99, on met à la tête de cette institution Dick Pound, qui est un avocat dans la finance, qui a été compétiteur olympique en 60 en natation.
Oui.
Et surtout, ce que tout le monde ignore, c'est qu'il a été le défenseur de Ben Johnson à Séoul.
Oui. Et Ben Johnson, vous rappelez, donc coureur dopé, donc
oui,
athlète dopé.
Le vainqueur du 100 mètres qui a été contrôlé positif et qui a été déchu de son titre. Et qui a dit en substance, un peu comme Jan Ullrich et Armstrong, je n'ai pas triché, car tous les autres compétiteurs de la finale ont pris les mêmes produits que moi.
Oui.
Et donc, c'est de l'hypocrisie de me sortir tout seul, d'autant plus qu'il y avait un deuxième concurrent qui a été positif aussi, on a effacé son contrôle positif, c'est l'Info Christi, qui était... positif à l'éphédrine.
Et on peut parler d'hypocrisie aussi quand vous nous dites que du coup, l'homme que l'on met à la tête mondialement de la lutte contre le dopage, c'est le défenseur finalement.
Oui, mais surtout, bon, un avocat, c'est pas forcément lui qui a dopé Ben Johnson, mais il est quand même suspect dans la mesure où il voulait nous faire croire que Ben Johnson avait été dopé à son insu et que sa tête n'était pas dopée, c'est son corps qui était dopé.
Ah oui.
Voilà. Donc, on a du mal à croire en ce personnage. D'autant plus que la veille de sa nomination, il n'a pas aucune expérience particulière dans la lutte antidopage. Il n'a jamais milité à aucun moment pour la lutte antidopage. Et à la limite, on se pose la question de savoir s'il sait que dopage prend un seul P et non deux P. Voilà, donc c'est une redondance régulière de constater que les présidents de ces commissions, AMA, hein, le successeur Faé, c'est du même type, hein, il a rien fait dans l'antidopage avant d'être nommé, dans les institutions françaises, AFLD et les précédentes qui portaient pas le même sigle mais qui avaient la même ambition de lutter contre le dopage, mais qui étaient peut-être un peu moins indépendantes que l'AFLD. Eh bien là aussi, les présidents de cette entité FLD, la veille de leur nomination, ils connaissent rien du dopage, et le lendemain, ils sont interrogés par les journalistes comme des spécialistes.
Oui, bien sûr.
Donc on rêve. Je veux dire, tant qu'on est dans un système d'amateurs, mais vraiment amateurs profonds, hein, contre des professionnels de la dope, je veux dire, le combat est perdu d'avance. Donc c'est les fédérations internationales qui dirigent la manœuvre. Les agences, elles sont vraiment à la hauteur de pas à la hauteur de l'événement. Donc il n'y a pas de raison que la lutte antidopage soit très efficace.
Donc si on comprend bien, voilà, vous êtes pas spécialement, vous ne rejoignez pas donc les gens qui pensent prouver donc par l'existence de ces agences que la lutte contre le dopage avance. J'aimerais juste vous demander votre, enfin comme je vous l'ai dit également, votre avis sur le passeport biologique. On nous le vend comme étant la
alors,
preuve.
Je voudrais, avant de vous, oui. Je vais vous en parler du passeport biologique, bien sûr. Mais avant, vous m'avez parlé des chiffres.
Oui,
donc,
allez-y.
Je vais vous donner des chiffres 2012 qui ont été donnés devant la commission d'enquête sénatoriale.
Oui.
Pour la petite histoire, c'est moi qui ai été le premier auditionné. Le 14 mars dernier,
Les vidéos d'ailleurs sont disponibles sur Dailymotion, sur Internet. Voilà.
Exactement, et donc j'ai été le premier à être auditionné. Et donc, les chiffres donnés, en 2012, dans le cyclisme, il y a eu 1812 contrôles pour un nombre de licenciés de 110 000. Ça donne un rapport de 1,6% des compétiteurs qui sont contrôlés. Il faut savoir que pour que ce soit efficace, il faut qu'au moins 5% des compétiteurs soient contrôlés.
Vous parlez bien des, là seulement
du
au niveau français, hein, et puis
oui,
c'est au niveau français.
Voilà. Dans le rugby, alors là je parle du plus vers le moins, c'est-à-dire là où il y a eu le plus de contrôle par rapport aux licenciés.
D'accord. Allez-y.
Donc le cyclisme est en tête, comme toujours, 1812 contrôles, 110 000 licenciés, ça fait 1,6%.
Mmh.
Dans le rugby, 588 contrôles. Pour 322 000 licenciés, ça fait 0,18% de contrôlés.
Oui.
Dans le tennis, 400 contrôles. Pour 1 125 000 licenciés, ça fait 0,03 contrôlés. Et dans le foot, 548 contrôles. Pour 2 226 000 licenciés, ça fait 0,002.
On va rappeler que 548 contrôles, finalement 548. 8 joueurs, plus ou moins, ne serait-ce que dans la première division. Donc ça ferait globalement que, en estimant que ces joueurs-là étaient les seuls contrôlés, ça ferait un contrôle antidopage dans l'année, donc, par joueur.
Exactement.
Voilà, ce qui est quand même
oui,
alarmant.
Mais ça ne concerne pas que les joueurs de Ligue 1. Ça.
C'est pour ça, c'est encore moins que
voilà,
ça.
Voilà, bien vraiment... sûr. Et donc, effectivement, le chiffre, il n'y a pas très longtemps, au moment de la Coupe du Monde 2010... Hein, le nombre de contrôles dans le vélo, c'était 1 sur 10 était contrôlé. Et dans le foot, c'était 1 sur 2000.
Oui, oui, d'accord. Effectivement. Votre avis, du coup, peut-être sur le passeport biologique, là, je crois que les chiffres ont parlé d'eux-mêmes. Hein,
Le passeport biologique, il faut expliquer ce que c'est, parce qu'effectivement, le nom passeport biologique ne donne pas forcément l'explication de la tactique.
Allez-y.
Le passeport biologique, c'est qu'on fait des analyses régulières, sur différents paramètres, et donc vous avez un profil personnel, hein, il y en a qui ont plus de globules rouges que d'autres, il y en a qui ont plus d'hémoglobine, il y en a qui ont plus de certains produits dans le sang, et donc si on trouve des variations au fil du temps, des variations anormales, eh bien c'est un indice, donc après on fait des modèles mathématiques pour déterminer si ça dépasse un certain chiffre, vous êtes très suspect d'avoir utilisé des produits, et là vous passez devant une commission et vous risquez effectivement d'être sanctionné comme un contrôle positif. Alors, ce passeport, effectivement, il est surtout influencé par les hormones. C'est-à-dire, si vous prenez un stimulant, il ne se voit pas dans le passeport biologique.
D'accord, oui.
Si vous prenez de l'actorégène, ça ne se voit pas dans le passeport biologique. Si vous prenez du néoton, ça ne se voit pas dans le passeport biologique. En revanche, si vous prenez corticoïdes, si vous faites transfuser, si vous prenez de l'EPO,
oui,
si vous prenez, voilà, si vous prenez des produits de ce genre, hormonaux, eh bien là, ça va se apparaître sur le passeport. Et donc, c'est en confrontant les différents tests que l'on fait au fil de l'année par rapport à votre profil qui a été établi sur d'autres tests, que l'on voit si vous êtes en dehors des clous ou pas.
Oui, donc qui n'est pas vraiment efficace puisque tous les produits ne sont pas répertoriés dessus.
Non. Non, non, tous les produits, ça concerne surtout les hormones.
Alors écoutez, on va avancer. Thibaut, je crois, qui est avec moi en studio, avait une question à vous poser concernant les ministères. Thibaut.
Oui.
Si tu ne mets pas le micro,
voilà,
ça va pas
mieux.
Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Donc moi j'avais une question par rapport à l'action des différents ministères par rapport à la lutte contre le dopage. Est-ce que, parce qu'on a des discours évidemment de politique qui nous certifient, qui mettent tout en œuvre pour lutter contre le dopage, mais est-ce que l'action politique aujourd'hui aide à la lutte contre le dopage ? Selon vous.
Et est-ce qu'il y a un ministère, peut-être, alors vous parliez de Marie-Georges Buffet tout à l'heure, qui a été un peu au-dessus des autres dans l'intention, j'ai envie de poser.
Oui, mais moi, je suis persuadé que le ministère des Sports n'est pas le bon ministère pour lutter contre le dopage. Et on lui demande à la fois d'obtenir un maximum de médailles aux Jeux Olympiques, notamment, et parallèlement d'empêcher les médaillés potentiels d'y aller en les pourchassant. Ou en recherchant leur pratique dopante. Donc c'est pas possible. Il y a toujours des arrangements au fil des années. On a assisté à différents arrangements. Par exemple, une athlète était positive et on lui a coupé la sanction en deux. Donc elle faisait 2 mois avant les Jeux et 8 mois après. Donc c'est du grand n'importe quoi. Et pour qu'elle puisse aller aux Jeux. Donc c'est là aussi mission impossible à un mouvement sportif, au ministère des Sports. Je le dis, je le répète, il faut sortir la lutte antidopage du monde du sport. C'est pas possible autrement. Il faut sortir la lutte antidopage du monde du sport. Alors il faut trouver effectivement une autre entité qui soit vraiment inattaquable, indépendante. Mais ça, c'est une réflexion peut-être des sénateurs, voilà, de trouver en tout cas devant les sénateurs, je leur ai dit que le monde du sport n'était pas la bonne personne pour lutter contre le dopage et qu'il fallait trouver une autre structure pour avancer. Ça fait 50 ans que le monde du sport lutte contre le dopage, 50 ans que les affaires de dopage s'accumulent, 50 ans que le dopage progresse, se répand. Et donc on n'avance pas, c'est-à-dire qu'au final, vous voyez bien que l'accidentologie routière diminue grâce au radar, et radar de plus en plus perfectionné, et bien dans le sport, le dopage ne diminue pas parce que les radars sont pas de plus en plus perfectionnés.
Eh bien écoutez, je crois que c'est assez clair. Cyril, qui était avec moi, également avec moi en studio, avait une question. Par rapport à la presse, on vous a dit tout à l'heure que vous pourriez vous en parler un peu plus tard, la question, Cyril.
Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Viens devant le micro s'il te plaît, parce que sinon on t'entend passer.
J'aimerais savoir quel est votre regard par rapport à la presse qui lutte contre le dopage. On voit notamment les journalistes de l'équipe faire les choux gras sur l'époque Armstrong, où ils se sont targués que depuis 2000 ils luttent contre Armstrong et tout. Mais moi, dans le football notamment, depuis un joueur dopé en androlone fin des années 90, début 2000, qui jouait à Metz, j'ai pas forcément souvenir d'une grosse investigation de la part des journalistes.
C'est vrai. Et puis à l'équipe, c'est qu'ils font, des coups sur Armstrong, donc ils ont sorti pour en faire la une. Et donc après, Armstrong est effectivement le bon sujet pour faire vendre sur son dos. Mais effectivement, quand dans les autres sports il y a une affaire de dopage, elle fait 3 lignes, et le moindre cycliste qui se fait attraper, lui, il a 3 colonnes.
La couverture même des fois.
Oui, exactement. Il faut qu'il soit un peu connu, mais en tout cas, effectivement, il peut avoir un espace beaucoup plus important que dans les autres sports. Mais personnellement, quand je lis la presse, quelle qu'elle soit, notamment sportive, sur le dopage, c'est, je veux dire, un maximum d'erreurs, d'idées reçues, parce qu'ils sont pas formés. Donc les confusions sont permanentes sur les produits, sur voilà. Donc il n'y a pas de formation vraiment des journalistes. Déjà, pour commenter un match, on est là pour apprécier les performances des individus qui jouent sur un terrain, et ils savent même pas comment le corps fonctionne, quelles sont les caractéristiques physiologiques d'un sportif, d'un footballeur, d'un athlète, d'un cycliste, etc. Donc moi, déjà là, pour moi, il y a une carence énorme, et d'ailleurs ça pérennise le dopage, en tout cas la conviction des sportifs qu'ils ont à continuer à tricher. C'est que lorsqu'ils voient à la télévision, les journalistes parlaient du dopage. Je dis, mais regarde celui-là, il y connaît rien du tout, qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Et donc ça les renforce dans leur dérive. Par exemple, on leur dit, l'hormone de croissance est dangereux pour la santé. Alors ils répondent, mais attendez, on donne ça à des enfants pour grandir, pour améliorer leur santé, et nous qui sommes en pleine forme, hein, j'ai 25 ans, je mesure 1m90, je pèse 80 kilos, je cours vite, je saute haut, si je prends l'hormone de croissance, ça va pas me faire de mal à moi. Pour le PO, l'érythropoïétine qui augmente le nombre de globules rouges, c'est pareil, ils disent mais on donne ça à des insuffisants rénaux qui sont quasiment grabataires, et moi qui suis en pleine forme, ça va me faire du mal. Voilà, donc ils croient jamais parce qu'on leur explique pas réellement que la confrontation de l'effort physique et du dopant potentialise les effets du dopant, c'est-à-dire aggrave l'utilisation du dopage sur le corps. Par exemple, un exemple simple, tout le monde a entendu parler de Jean-Paul Sartre. Pendant les 25 dernières années de sa vie, il prenait des amphétamines, une vingtaine de comprimés de Corydrane, qui est une amphétamine associée à l'aspirine. Donc c'est un stimulant pour... Alors ce stimulant, il le prenait bien sûr pour écrire, mais les seuls efforts qu'il avait à faire, parce qu'il fumait, donc il allait chez le buraliste, donc c'était pas très loin de chez lui, il buvait aussi pas mal de café, donc il allait à sa cafetière faire chauffer le café, de temps en temps il se levait de son bureau pour attraper un dictionnaire pour vérifier un mot, en fait au final il faisait pas beaucoup d'efforts. Eh bien si ces 20 comprimés de Corydrane, on les donnait à un sportif qui va grimper le Ventoux, au minimum il est en réanimation, au maximum il est à la morgue. Donc la...
Pourquoi juste, docteur?
Eh bien parce que le fait de prendre le produit, l'amphétamine en l'occurrence, entraîne une hyperthermie du corps. Donc l'effort intense entraîne une hyperthermie. À la fin du marathon, si vous prenez votre température, vous êtes à 39,5. À la fin d'une étape du Tour de France, vous êtes aussi à 39,5, suivant les conditions de course. Bien sûr, si vous êtes en haut du Galibier où il fait moins de 3 et qu'il neige, vous n'allez pas être à 39,5. Mais donc l'effort physique augmente la chaleur du corps. Si c'est en plein mois de juillet, il y a plus de chances d'avoir du soleil qui tape. Et si en plus vous prenez des amphétamines, eh bien votre corps va avoir une hyperthermie. C'est-à-dire qu'il va chauffer encore plus. Et cette, d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui sont morts dans des rêves parties en prenant des amphétamines pour faire la fête pendant 24 heures, danser sans arrêt, etc., avec l'alcool. Et ils meurent de collapsus, c'est-à-dire la pompe se désamorce et ne fonctionne pas. Et donc les gens meurent, ça arrive régulièrement. Donc le fait de prendre un produit dopant confronté à l'effort n'a pas les mêmes effets que de le prendre devant sa télévision et regarder un match de foot.
D'accord. Docteur, on va revenir rapidement sur cette lutte antidopage. On a bien compris qu'avec les instances actuelles, vous n'étiez pas, on va dire, très optimiste quant au fait que cette lutte antidopage puisse progresser. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, et notamment, qui pourrait-on mettre à la tête de ces instances pour les voir progresser?
Alors, d'une part...
Vous peut-être, non?
Pardon?
Vous peut-être?
Non, j'ai plus l'âge. j'ai pas d'attirance particulière pour ce genre d'activité. Mais il est clair que la lutte antidopage, elle doit être retirée de la main. Il faut créer vraiment une structure indépendante, et à la tête des gens concernés. Des gens concernés, pas des gens qu'on bombarde parce qu'ils sont un commis d'État, parce qu'un énarque quelconque, il faut lui trouver une porte de sortie ou une porte d'avancement. Il faut vraiment des gens concernés. Il n'y en a pas beaucoup dans notre société actuelle. Il y en a deux notamment. Il y a un Italien qui s'appelle Sandro Donati, et oui. Qui a déjà démontré qu'il était complètement impliqué dans la lutte antidopage, puisque c'est lui qui a fait tomber Francesco Conconi, le fameux physiologiste italien qui a préparé Francesco Moser au record de l'heure grâce à la transfusion sanguine et tout un ensemble d'éléments techniques sur le vélo, mais aussi grâce à la transfusion sanguine, qui a formé Ferrari, Conconi. Et donc c'est Donati qui a fait tomber ces brillants personnages. Et il s'attaque à la mafia actuellement, donc c'est vraiment quelqu'un qui a pas froid aux yeux. Il a été entraîneur d'athlétisme, donc qui connaît bien le milieu sportif de haut niveau, le milieu du dopage également. Ensuite, il y a un Allemand qui s'appelle Werner Franke, qui est le mari de Brigitte Berendonck, qui avait commis un livre dans les années 90 sur le dopage en Allemagne. Et c'est lui qui a mis à jour tous les protocoles d'Allemagne de l'Est concernant le dopage et les athlètes qui étaient impliqués, malgré la chute du mur, et après la chute du mur de Berlin, se refaisaient une santé de virginité par rapport au dopage, et lui les a rattrapés, et a démontré qu'effectivement, ils ont participé à des protocoles de dopage. Donc ce médecin allemand est également concerné, mais ces gens-là, on n'en veut pas. Parce qu'à ce moment-là, la lutte anti-dopage deviendrait efficace.
Bien sûr, oui. Eh oui, évidemment. Et c'est... on a bien compris que ce n'était pas le but recherché.
Parce que le jeu, c'est de montrer qu'on lutte contre le dopage,
tout en luttant
mais de prendre pas grand monde. Et quand on prend quelqu'un, là, on va jusqu'au bout, on les sort jusqu'à la moelle. Voir Armstrong, voir Contador, on en retire tout ce qu'on peut pour montrer qu'on lutte contre le dopage. C'est l'exemple parfait, c'est Ben Johnson. Donc Demiroad, le président de la commission médicale du CIO de l'époque, sent qu'il va passer à travers, qu'on va faire des pressions pour pas qu'on révèle le cas, et lui, par la bande, il avertit l'AFP qui sort la dépêche. Et donc là, la machine s'emballe. Et le patron du CIO, Samaranch, l'Espagnol, ne va plus adresser la parole à Demiroad pendant 8 mois.
Oui.
Et il prenait le même avion. Il n'adresse plus la parole alors qu'il était vice-président du CIO, Demiroad. Voilà, il n'adresse plus la parole et puis il s'aperçoit dans un deuxième temps que ça lui sert qu'on ait attrapé Ben Johnson. Et il se répand dans les médias pour dire, voyez, on est efficace. On a attrapé le plus grand athlète des Jeux de Séoul. Voilà, donc l'hypocrisie est généralisée et dans le monde du sport. Et donc c'est pas le monde du sport qui va s'auto-flageller, se tirer une balle dans le pied. Il faut rêver. Et c'est, les rêves, ça marche pas. Et donc il faut vraiment changer la donne. C'est pour ça que le monde du sport n'a rien à voir dans la lutte antidopage. Il ne devrait rien avoir. Ça fait 50 ans qu'il a à voir. 50 ans qu'il pèse sur l'inefficacité de la lutte antidopage dans une entreprise privée, il serait pas resté 50 ans. Hein. Il aurait été viré au bout d'un an.
Écoutez, ça fait encore froid dans le dos. Docteur, il nous reste une toute petite dizaine de minutes pour parler du championnat de France de Ligue 1. Encore aller de manière un peu plus précise. On va rentrer dans la période de la préparation. Là, nous concernant les Girondins, c'est le 4 juillet, par exemple. Donc c'est-à-dire c'est la reprise de l'entraînement. On imagine que ces périodes-là sont propices à. Alors je parle pas forcément des Girondins, hein, mais des clubs en général en Ligue 1. On imagine que donc ces périodes-là sont propices à des pratiques dopantes. Qu'en est-il selon vous? Et est-ce qu'on peut avoir notamment des pratiques dopantes qui soient faites spécifiquement sur cette période-là pour avoir un effet longue durée, comme vous pouviez
bien sûr, bien sûr qu'elles peuvent être démarrées dès cette époque et bien sûr là aussi il faut être vraiment très très pointu parce que l'idéal pour les agences antidopage c'est venir les contrôler pendant cette période. Alors là aussi il y a souvent, on l'a vu ces derniers temps, des grands clubs comme le Barça, ils donnaient des fausses adresses et les contrôleurs, ils arrivaient jamais où l'équipe s'entraînait. Donc à plusieurs reprises, ces derniers temps, le Barça s'est évité des contrôles de cette nature. C'est évident que les seuls contrôles vraiment performants, c'est les contrôles inopinés. Alors un contrôle inopiné, c'est pas de faire un contrôle. Par exemple, là, j'entends qu'on va faire des contrôles inopinés dans le Tour de France. Mais ils ont rien compris ce que c'est qu'un contrôle inopiné. Les types, quand ils courent le Tour de France, ils savent qu'ils vont être contrôlés.
Oui, c'est ça.
Donc, ça n'a rien d'inopiné, ça. qu'ils soient contrôlés à 8h du matin ou à 8h du soir, c'est pas ça qui est inopiné.
Oui, bien sûr. Oui.
Ils vont être contrôlés, donc ils le savent. En revanche, si on se pointe chez vous à 9h du soir, on dit c'est un contrôle, là effectivement, il est inopiné. Et en dehors de...
période de compétition,
oui. Oui, en dehors des compétitions, ou même dans les phases d'entraînement. Ces contrôles-là, à l'improviste, donc hors compétition, sont vraiment les seuls qui soient performants pour empêcher des protocoles de dopage. Mais dans cette préparation aussi, ils peuvent utiliser des substances qui ne sont pas dans la liste des substances interdites, et qui sont uniquement utilisés dans un but d'améliorer les performances des joueurs. Donc là aussi, il y a une responsabilité des encadrements, au niveau des clubs, bien sûr, mais comme l'encadrement est toujours, dépendant d'un président, d'un manager, la responsabilité, elle est à plusieurs étages, hein. Elle n'est pas uniquement sur une personne. Hein. Il y a, actuellement, dans les grands clubs, c'est pas quelqu'un tout seul qui va décréter que ça se passe comme ça. Alors, on nous dit que dans le football, il n'y a pas de dopage organisé, il n'y a que des dopages individuels. Ça m'étonnerait. Hein, que la médicalisation, elle est... On l'a vu avec la Juventus, hein, mais le problème, c'est que en Italie, ils ont eu la moelle pour aller investiguer la Juventus, qui est un très grand club, donc c'était un risque pour la justice italienne d'avoir des effets boomerang. Hein. Puis là-bas aussi, les politiques sont très influents sur la justice. Donc, je trouve que les Italiens ont été beaucoup plus performants que les Français pour aller savoir ce qui se passait dans le football. On voit qu'il y a des gendarmes en France qui sont spécialement affrétés à ces contrôles, d'aller dans les différents sports enquêter. Mais dans le football, on les voit pas souvent. On les voit surtout dans les affaires de cyclistes. Et dans le football, on n'entend pas beaucoup parler de leur action. Mais d'un autre côté, il faut quand même savoir qu'ils sont que 4. Et pour l'ensemble du sport français, 4, ça fait pas beaucoup, parce que s'il y en a un qui est en RTT, l'autre qui est malade, ça fait, il reste plus que 2.
Vous parlez des contrôleurs, là, du coup, que 4
Oui, non, des contrôleurs, c'est-à-dire des gens qui font les enquêtes, sur les trafics.
Oui, oui.
Parce que c'est ça qui est le plus important. Hein, c'est d'épingler tous ceux qui trafiquent des produits dopants.
Bien sûr, oui.
Et c'est là où vous aurez plus d'effets. Mais
donc, effectivement, souvent, le problème à la base, oui, bien sûr.
Ouais, souvent, c'est à partir d'une affaire qu'on remonte les distributeurs, et là, la plotte se déroule et on trouve beaucoup de monde. Récemment, donc c'est pas les Français ça, mais c'est en Espagne, ils ont épinglé 84 personnes dans un trafic d'anabolisants et dans le milieu de la gymnastique. Tout le monde y croit faussement. Que la gymnastique est épargnée par le dopage. Mais non, il n'y a aucun sport qui est épargné, puisque c'est l'homme face à la compétition, hein, qui veut exister. Hein. Tout le monde veut être sur le podium, tout le monde veut être valorisé par ses performances. Et donc, beaucoup de gens croient qu'on les aime que s'ils gagnent. Donc, ils vont tout faire pour gagner, et le dopage fait partie de la panoplie pour gagner. Voilà.
Docteur, il nous reste encore 3 questions, si je me trompe pas, et peu de temps, très peu de temps, pour finir à 23h, comme promis. La première, alors j'aimerais que vous nous disiez, je suppose que vous êtes plus au courant de nous, je précise par avance que je ne vous demande pas nécessairement de citer des noms, mais voilà, on vous laisse énormément votre liberté d'expression, évidemment. Y a-t-il aujourd'hui, en France, de la part des personnes compétentes, des cas de clubs qui paraissent très suspects, plus que d'autres peut-être encore, et donc en Ligue 1.
Ça c'est effectivement, vous me posez une question où c'est compliqué de répondre sans se retrouver.
Oui, c'est pour ça que je vous dis voilà. Mais est-ce que vous pouvez répondre par oui ou non?
Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à ces dernières années, chaque fois qu'il y avait des affaires de dopage, on mettait en avant la présomption d'innocence. Et malheureusement, depuis de nombreuses années, c'est pas la présomption d'innocence, c'est la suspicion légitime. Oui. Vous savez que dans un tribunal, si un des jurés connaît plus ou moins l'accusé ou connaît plus ou moins un des membres du tribunal, eh bien, la personne du tribunal est éliminée. Mmh. C'est ce qu'on appelle la suspicion légitime. Et à partir du moment où vous faites du sport de compétition, et notamment du sport de haute compétition, la suspicion est légitime. Pour accréditer cette suspicion légitime, il y a une enquête qui a été faite dans le football anglais, la Premier League, et 51% des joueurs anglais croient à l'usage des dopants en championnat. Oui. Et ça, c'était en 2003. Donc c'était un sondage de la Premier League en 2003. Donc 10 ans plus tard, je pense pas qu'il soit moins de 51%.
Oui, bien sûr, oui.
Et donc c'est évident que c'est pas une question de vouloir stigmatiser le football et dire c'est les footballeurs de première ligue de première division sont dopés, sont tous dopés, etc. C'est que la suspicion est légitime, les contrôles sont pas performants pour évaluer le dopage, et si vraiment le monde du football était conscient, mais c'est pareil pour les autres spécialités sportives, était conscient qu'il y a du dopage dans leur sport et qu'ils veulent faire le ménage ou nettoyer vraiment les gens qui transgressent les règles. Moi, j'entends jamais de revendication des footballeurs en disant les contrôles sont pas efficaces. Est-ce que vous avez entendu des sportifs se syndiquer pour dire les contrôles sont pas efficaces? Jamais.
Non, jamais, oui.
Jamais. Donc ça prouve que le nombre de gens qui utilisent les substances pour faciliter la performance est considérable.
Oui, docteur, on a une question, je crois, sur la retraite des sportifs. Ça va être la manière de conclure un petit peu.
Oui.
Puisqu'on sait que les produits dopants sont une pratique addictive. Cyril avait une question pour vous.
On a tous en mémoire le cas Marco Pantani, qui malheureusement c'est pas suicidé, mais on sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il est mort. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un suivi des anciens sportifs qui sont reconnus dopés, ou que leurs médecins en club savent,
le sport entraîne le dopage, est-ce que le sport
ça soit public, mais
oui, il y a des structures, mais je crois même qu'il y en a une à Bordeaux qui est dirigé ou qui a été dirigé par Serge Simon.
D'accord, oui.
Et qui est à Bordeaux et qui reçoit des anciens sportifs addictifs pour les sortir de leur addiction.
Donc le sport quand même se préoccupe quelque part.
Oui,
il y en a
d'autres. Il y a Monte Cristo à Paris. Il y avait une structure également près d'Annecy. Voilà, alors j'ai pas suivi de façon précise l'évolution de ces structures, mais je sais qu'en tout cas on s'en préoccupe dans les sphères sportives. Alors qu'elles soient, il faudrait à ce moment-là interroger vraiment les gens qui agissent dans ces structures, mais en fait on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, hein, c'est ça, on n'en parle pas beaucoup. Mmh. Elles existent a priori. Je ne sais pas quelle est leur efficacité, et c'est effectivement en allant enquêter dans ces structures, il y en a une pas loin de chez vous. Donc,
écoutez, ça vaudra le coup qu'on aille s'y intéresser peut-être.
Voilà, d'aller voir exactement ce qui est fait, ou de se faire passer pour un ancien sportif victime d'addiction.
Ouais.
Et là, vous verrez comment on vous traite.
Écoutez, c'est une bonne idée. On va terminer, docteur, si vous le voulez bien, par une question qu'on veut volontairement polémique.
Allez-y.
Puisque donc c'est la question de notre ami Sébastien, vas-y.
Oui, c'est une question volontairement
polémique,
un peu provocante, et à prendre, je pense aussi, sûrement même au second degré. Est-ce que vous pensez que, à terme, dans quelques années, on peut arriver à une légalisation du dopage dans tous les sports? Ça réglerait pas le problème en termes de santé, mais ça réglerait le problème en termes de triche. Personne serait surpris.
Et on terminera là, docteur.
Oui, alors, je suis médecin. Donc les produits dopants sont dangereux pour la santé. Mais ils sont pas dangereux que pour la santé de l'individu. Ils sont dangereux pour la santé de sa descendance. Les enfants des gens dopés On l'a vu récemment, justement, dans le football algérien, il y a 2 ans. 8 joueurs de l'équipe nationale d'Algérie des années 80 sont venus revendiquer auprès de la fédération des indemnités ou des voilà de réparer les effets sur leurs enfants. Et l'un des footballeurs internationaux avait même plusieurs enfants qui avaient des malformations liées, et pour lui c'était lié au dopage. Et parce qu'ils avaient un médecin pendant la période où ils étaient internationaux, un médecin russe, qui leur donnait des produits dont ils ignoraient effectivement les tenants et les aboutissants. Et donc on appelle ça en médecine les effets liés à l'usage de médicaments pendant la grossesse ou chez le mari qui a envoyé ses spermatozoïdes pour créer un enfant. Par ce moyen des spermatozoïdes a transmis des drogues et donc ça entraîne des effets tératogènes, on appelle ça des effets tératogènes. Et par exemple, l'enfant va naître avec la main implantée à l'épaule ou des pieds beaux. Au moment du procès en Allemagne de l'Est, plusieurs athlètes allemands de l'Est sont venus également réclamer à l'État, à la RDA, des indemnités par rapport à leurs enfants qui étaient nés avec des pieds beaux, des malformations. Il y a même des athlètes, à force de prendre des anabolisants, des femmes athlètes sont devenues des hommes. Donc on ne peut pas laisser la libéralisation du dopage. Et puis à partir de quel âge on va permettre la libéralisation du dopage? À partir de 8 ans, 10 ans, 15 ans?
Bien sûr, oui.
Non, c'est absurde. On ne peut pas... c'est la triche. Le dopage est efficace. Le dopage est efficace entre 5 et 10%.
Mais vous
donc
avez...
à partir de ce moment-là, si on laisse le dopage libéralisé, pourquoi au marathon, on ne se pointe pas avec une mobylette? Et puis après, ça sera une voiture, et puis après l'avion, et puis après on se casse tous.
Écoutez, docteur, on va vous remercier. On se doutait bien de votre réponse à la dernière question. Comme on l'a dit, elle était volontairement provocante.
Juste... Oui, mais la nuance qu'il faut apporter, c'est que je réponds à la question par des arguments. Je dis pas que c'est illusoire. Non, je donne des arguments et qui me semblent pertinents pour pas aller dans cette dérive.
Bien sûr. Écoutez, on va vous remercier en tout cas. On va vous libérer. On est un peu en retard. Puis, si jamais je peux me permettre, alors n'étant pas moi-même un dopeur ni un médecin, je vais quand même vous conseiller de boire un grand verre d'eau. Ce sera le meilleur des produits pour vous retaper après nous avoir accordé cette interview de 2 heures.
Oui.
Et puis, écoutez.
C'est vrai, j'ai quand même eu une mi-temps, donc j'ai pu boire. Et puis même pendant vos questions, j'ai quand même pu boire un peu.
Bon, bah, écoutez, vous avez triché à votre manière finalement.
Ah, bon. Mais triché, je vois pas où est la triche. J'avais pas de règles au départ.
Vous nous avez dit que c'était une sorte de dopage. Quand vous preniez des produits en tout début d'émission, non mais c'était une boutade.
D'accord.
On va vous remercier en tout cas d'avoir été avec nous. Je pense que l'interview a été très enrichissante pour tout le monde. Et puis écoutez, ne raccrochez pas, je vous reprends 2 secondes en antenne. Vraiment,
entendu.
2 toutes petites secondes. Les garçons, je vais vous laisser.
Merci à vous,
monsieur. Merci à vous.
Merci. Le but, c'est que ça vous apprenne des choses et que ça vous intéresse.
Ben, je crois que c'était le cas ce soir. Voilà. Donc on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Je vous reprends en antenne tout de suite. Les gars, du coup, je vous laisse continuer.
Oui. Et bien voilà. Donc on reprend. On a bu, hein. Voilà, ouais. De l'eau. Tu peux pas dire ça à l'antenne. T'as pas le droit.
surtout que c'est pas vrai.
On vous remercie évidemment d'avoir suivi cette émission qui était volontairement longue. On a essayé de la faire la plus complète possible. Alors malheureusement, on n'a pas pu reprendre les questions sûrement qui étaient posées sur le chat.
Il y avait pas mal de trucs. Même nous, on n'a pas eu. Enfin,
voilà, on n'a pas eu le temps de tout faire. Mais voilà.
Notamment ce que je voulais demander à la fin. T'as toujours l'éternel problème. Ces gens-là auront toujours les dopés dans le sport auront toujours un temps d'avance sur les voleurs, ils ont toujours un temps d'avance sur la police, quoi. C'est un truc, c'est
mais après
c'est,
moi enfin
voilà, si jamais on arrivera à avoir un sport propre, que ce soit dans n'importe quel sport.
Je comprends, la question elle était volontairement polémique.
Je vais juste te préciser,
toi t'as l'habitude de couper les gens en plein
oui
milieu,
mais non
des
mais parce que des fois j'ai peur que les gens ils comprennent pas. Ça part d'un truc en fait tout bête où j'ai vu ça l'autre jour à la télé. Ça part d'un truc, il y avait un reportage, c'était sur Canal, ça n'a rien à voir, c'était sur le trafic de drogue et de cocaïne dans le monde entier. Il y avait notamment un commentaire de l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, où le mec en arrive carrément à la réflexion de se dire, voilà, pendant des années, j'ai lutté et j'ai mis, je sais plus combien, c'était genre 400, 500, 600 milliards dans la lutte contre le trafic de drogue, et ça n'a servi strictement à rien. Et donc le mec se dit, bah, puisque cet argent-là que j'ai dépensé, ça ne sert à rien, pourquoi pas peut-être légaliser, tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire, combien d'argent on met, combien de masse d'argent on dépense tous les ans pour peut-être toper un mec qui a pris un rail de coke en boîte de nuit, quoi, tu vois ce que je veux dire ?
Visiblement, dans le dopage dans le football, ça va pas coûter bien cher.
Non, mais.
Genre 0,02%.
Non, mais je veux dire, voilà, c'est au final, on n'aurait pas de surprise. On saurait ce qu'il en est, on sait que bah voilà, le mec il monte le Tourmalet en 10 minutes, pas de problème, pas de surprise, on sait que le mec a fait des prods.
Après, juste pour te répondre, parce que
non, mais c'est volontairement grossi pour. Voilà,
oui, non, mais j'ai bien compris, mais moi je comprends parfaitement. Bon, la position du docteur de Mondin, elle s'explique d'elle-même, hein, c'est un spécialiste reconnu, et puis c'est un médecin avant tout. Si tous les médecins étaient aussi scrupuleux, et c'est pas pour lui passer la pommade, mais scrupuleux que lui dans le respect du serment d'Hippocrate, je pense que. On n'aurait pas forcément ce genre de pratique. Après, moi personnellement, évidemment, pourquoi je n'aurai plus le cyclisme, pourquoi je le regarde très peu, avec évidemment en fond sonore quand je me fais chier et qu'il n'y a rien d'autre à la télé, parce que je sais très bien que dans ce sport, la proportion de gens qui ou de cyclistes qui prennent des produits anabolisants, des produits dopants, est conséquente. Donc du coup, ça fausse même, ça en vient jusqu'à fausser la nature même du sport, qui est la compétition avant tout. Alors après, j'ai peut-être une vision idéaliste du sport, etc. Mais effectivement, si on va par là, on regarde plus rien. Mais je pense que si on peut pas en arriver volontairement à légaliser le dopage, et je pense que personne ne souhaite ça, du simple fait que ça tuerait la compétition. Et il faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier. C'est là où. Toi, je regrette de ne pas avoir peut-être pu réagir avec le docteur, mais j'espère qu'on le fera dans une prochaine émission. Ouais. Mais quand il nous dit, j'ai mis la phrase sur Twitter, mais je crois que c'est, il y a aucun sport où il n'y a pas de dopage. En gros, beaucoup de gens, enfin, je l'ai interprété comme ça. Après, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il a voulu le dire. Il y a beaucoup de gens qui sont dopés dans tous les sports. Moi, j'espère qu'il y a. Bon, effectivement, je sais qu'il y a. Faut pas fermer les yeux, mais on sait qu'il y a une proportion de sportifs qui sont dopés. Mais j'espère quand même que la proportion finale de joueurs dits clean. Reste quand même une base pas majoritaire, mais une base solide. Je pense qu'il y a des gens qui font du sport, honnêtement.
Malheureusement, je pense pas que, enfin, il faut pas tomber dans la généralité.
Il a dit des chiffres, donc qui sont après c'était surtout des
chiffres. Tu leur fais dire ce que enfin les chiffres, on leur fait dire ce qu'on
veut. Quand il te dit que si les sportifs, des footballeurs te disent que ils sont prêts, 5%, 10% est prêt, je crois.
Ouais, il avait cité ces chiffres, je les ai pas notés d'ailleurs.
10% les chiffres de gens qui seraient prêts à se doper, même si les contrôles étaient compliqués.
52% en Angleterre.
92%.
D'ailleurs, j'ai 5% s'ils sont prêts et croient en bon Dieu, comme il a dit.
C'est ça. Ouais. D'ailleurs, non, mais juste pour terminer, je sais que Marc écoute l'émission et qu'il a enregistré. Il a le temps de me communiquer les chiffres, ces chiffres-là qu'il avait donnés au début.
Je les ai, si tu veux.
Ah, tu les as notés? Okay. Ben voilà, ben, donc, okay, pour que je puisse les mettre, parce que vraiment, c'est.
Ah, les chiffres du début, là,
ouais, les chiffres du début.
J'ai les chiffres des contrôles.
Ah, ben moi, je les ai mis, surtout je sais déjà mis, mais voilà ces chiffres là les chiffres où il donne, c'est un sondage qui a été fait auprès des gens qui étaient prêts à se doper ou qui étaient prêts à c'était au début de l'émission, mais ça c'est intéressant, parce que c'est intéressant, inquiétant surtout, mais voilà, moi je pense qu'effectivement, et j'espère qu'il reste quand même des gens
les sportifs
qui
probes.
J'en suis persuadé qu'il y a des gens qui croient à la performance, on va dire, propre.
Oui, mais ils finissent dernier à 4h30 du premier.
Mais oui, non, mais voilà, bien sûr.
Ou ils finissent 8e au 100 mètres à 3 secondes de Bolt.
Mais je suis pas sûr que, la solution de légaliser le dopage soit la solution.
Non, mais c'était.
Mais je sais, mais il y a des gens malheureusement qui doivent le.
Je sais que ça se fera
jamais.
C'est
quand même un argument qu'on entend souvent.
Mais tu te dis au final, puisque 80% ou 90% des mecs
si ça arrive à ça, je regarde plus sport.
Eh ben allons-y quoi, allez en avant Guingamp, on fait péter les
sports, ça
se rappellera spectacle.
Mais il y aura toujours des inégalités quoi. Enfin,
on fait péter
après,
les enfêtes et puis
c'est la fête à l'enfête.
Bon, messieurs,
au lieu de te distribuer des t-shirts en mi-temps,
au lieu de distribuer des
messieurs, je sais que vous n'avez pas beaucoup parlé, mais il est 23h10.
Excuse-nous, tu nous as sauvé de parole, on peut rien dire. maintenant, c'est bon. Fais un bruit parce que vendredi on n'aura rien à dire, donc
quand même. Celui-là, quoi.
Et, mais non, mais moi j'aimerais quand même revenir sur une petite touche.
Ils viennent d'une terre de vélo, quoi. Ils viennent de la Bosse, quoi.
Je pense que j'ai une terre de vélo. La Bosse, c'est plat.
Donc, j'espère que cette interview vous aura tous intéressé. Juste pour rappeler que l'entraînement des Girondins, on va reparler un peu de foot et de sport, en espérant y croire que ce sport soit le plus propre possible aux Girondins.
Après ce que t'as entendu là, tu peux pas dire un truc pareil.
Mais justement, c'est pour ça que je dis espérons, voilà, c'est tout. Espérons. Même si effectivement il y a de quoi être sceptique. On va rappeler donc que l'entraînement reprend. On va rappeler que l'entraînement reprend donc jeudi. Jeudi donc séance en après-midi.
17h.
Je crois, messieurs, que notamment Thibaut, tu iras flâner du côté du Rayon.
J'irai flâner, aussi, ouais. Oui, j'irai flâner du côté pour voir si Plasil et tout sont encore dedans. Mais Plasil sera pas là de toute façon, c'est des internationaux.
Roland,
mais on ira voir Jeremy
Brechet.
Voilà, on essaie de la faire passer pour une recrue anglaise, quoi, avec un anglais. Non, on rigole. Bref, on aurait là-dessus. Donc c'est jeudi à 17h me semble-t-il avoir lu quelque part.
Et la présentation des nouveaux maillots.
Voilà.
Exactement.
Et des nouveaux équipements.
Ah ouais, si t'as les photos, ouais, c'est de balancer.
Cyril, tu avais quelque chose à rajouter, je crois.
Avec la présentation, pardon, juste fini, des nouveaux équipements d'entraînement, puisque
on a. Des nouveaux équipements.
Mais des nouveaux équipements d'entraînement. Maillots d'entraînement.
D'accord.
Non, juste, moi je tenais à dire que c'était quelque chose de très intéressant, notamment la quête de l'Himalaya, cette histoire, ces anecdotes là. Franchement, c'est en fait, tu te rends compte que c'est partout, c'est courant et avoir quelqu'un qui a des anecdotes comme ça, mais franchement, ça me.
Ah mais salut contrôle dopage, moi quand je l'ai eu au téléphone, quand on a pris contact ensemble, la lutte antidopage. Alors j'ai deux anecdotes moi à raconter pour montrer à nos auditeurs un peu. Moi je trouve la probité, et c'est pour ça, on lui passe pas du savon, c'est juste le fait de remarquer certaines choses qui font que dans ce monde où justement le dopage, personne ne veut en parler, excepté certains, que je le pense propre et je le pense honnête quand, dans ses propos. Deux petites anecdotes du coup donc pour raconter ça. La première, c'est que pour vous exprimer un peu sa passion, la fois on s'est appelé deux fois donc pour prendre le rendez-vous. La deuxième fois, je pensais que ça durait 5 minutes, ça en a duré 35 parce que comme vous l'avez vu, c'est quelqu'un de très bavard et il m'a dit au bout de 5 minutes, où je lui avais dit bon du coup ça va pour lundi et voilà. Il a commencé à me dire mais vous savez que le dopage est dû à la volonté individuelle, enfin ce qu'il a pu dire aujourd'hui, et voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par ce qu'il fait et qui est très très volontaire. Et la deuxième anecdote que je voulais vous citer, mais je ne sais plus laquelle c'est, évidemment.
Je voulais lui demander si, justement, c'est terrible parce que t'as l'impression que ce monsieur et d'autres, hein, parce qu'il doit pas être le seul, sûrement en France, à partir avec leur bâton de pèlerin. J'avais envie de lui dire, mais qu'est-ce qui fait que depuis 40 ans, ce gars-là, parce que on sait très bien.
C'est ça que je voulais dire.
J'avais envie de lui demander, mais vous avez pas l'impression de prêcher dans le désert, quoi. C'est un truc, ça aboutira jamais, je veux dire, c'est perdu malheureusement,
c'est la volonté, c'est comme on disait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est
monsieur, Socrate. Si on l'entendait plus comme il dit, il a raison, quand on parle de dopage à la télé, à France 2, à ce que tu veux, au lieu de faire appel à, il a raison, le président de l'UCI pour parler du dopage de la Samstrong, le mec a aucune crédibilité, le mec il a zéro crédibilité, il a couvert pendant des années, tu vois ce que je veux dire, faisons parler des gens comme ça. Alors après c'est sûr qu'ils ont, ils ont pas la vérité. Mais ils ont une vérité qui, je pense, est quand même déjà plus.
Thibaut, pour conclure.
Quand tu dis on n'y arrivera jamais, je pense qu'il y a beaucoup de choses, enfin des exemples comme ça concrets dans l'histoire où on se disait on n'y arrivera jamais et jamais on verra ça. Qui sait que peut-être qu'un jour on verra il faudra qu'il y ait lors d'une finale de Coupe du Monde, ou je sais pas si c'est peut-être arrivé, ou dans un championnat d'Europe ou dans un championnat du monde de quelque compétition, un joueur qui ou un sportif qui meurt en plein truc
c'est
devant.
Déjà arrivé, Thibaut, oui, ça non,
mais d'accord, mais devant 90 000 personnes et il faudra peut-être des événements, une succession d'événements comme ça tragiques, malheureusement, pour que enfin il y ait une certaine prise de conscience. Après lui-même l'a dit, c'est pas quelques cas comme ça de il y a une véritable culture du dopage dans le sport, qui malheureusement, comme toutes les activités sportives, toutes les activités humaines plutôt, c'est gangréné certaines activités sont gangrénées par la corruption, d'autres par le chantage, d'autres par le sport, c'est le dopage. Et malheureusement, il y a quand même quelques-uns comme ce docteur qui ont envie de faire bouger les lignes, mais malheureusement, ils sont inaudibles aujourd'hui parce que on leur donne pas la parole, ou alors quand on leur donne la parole, c'est biaisé, c'est caché, c'est etc. Tronqué. Et je termine là-dessus. Moi, je vous encourage vraiment à aller lire et à aller surtout regarder la vidéo sur le site du Sénat.
Il y a Aymeric l'a mis sur le chat.
Voilà, mais allez la voir cette vidéo. Il y a le compte rendu, pour ceux qui veulent pas regarder la vidéo, il y a le compte rendu précis de toutes les anecdotes et de tout ce qu'il a pu dire dans cette commission. Je termine vite.
Vas-y.
Et voilà, c'est hyper intéressant. Moi, je me suis permis aussi de lire plusieurs articles qu'il avait rédigés dans des revues scientifiques, etc. Sur le dopage, sur l'omerta qui existe aujourd'hui dans le sport, sur le fait que certains aujourd'hui hauts dirigeants de grandes instances du sport protègent ou surprotègent ces histoires ou cachent les véritables histoires ou les véritables résultats des contrôles. Et c'est vraiment, si on regarde ça, c'est vraiment alarmant parce qu'on se rend compte que notre sport aujourd'hui, et je parle pas du football mais en général, mais du sport en général, aujourd'hui, il est à 90% dénaturé, quoi. Et moi, ça me fait chier, voilà, je le dis clairement ce soir, ça me fait chier. Et quand j'entends des chiffres comme ça, ça me révolte, et que personne aujourd'hui, et qu'il n'y a pas un journaliste en France qui soit capable de d'accompagner, de donner la parole à ces gens-là, je trouve ça triste.
Des journalistes en France, ça se saurait.
Il faut,
on aurait dû lui demander peut-être les résultats de cette fameuse commission du Sénat.
Mais elle n'est pas encore terminée, hein, parce que les résultats, la
preuve, c'est toujours des auditions.
Non, parce que exactement. Qui passe devant le Sénat, c'est bien, mais si c'est pour qu'au final on n'en tire rien,
on verra.
Ça sert à quoi?
On verra. Cyril, la preuve est
Il
a trop parlé, Cyril.
C'est bien de s'offusquer tout ça. Après, il faut faire évoluer aussi la pensée des gens qui supportent le sport et ne plus cautionner des sportifs dopés.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu leur donnes pas la parole à ces gens-là, comment tu veux que les
gens à un moment donné, t'as un sportif dopé, mais tu vas plus l'encourager, quoi. Tu vas plus acheter son maillot, tu vas pas acheter. Il faut.
Tu vas acheter ton abonnement, Cyril?
Non, je l'ai pas acheté.
Tu veux? Tiens,
mais dis-toi. Mais je te prends au mot.
Non, mais tu comprends ce qu'il dit.
Il a entièrement raison ce qu'il dit.
C'est-à-dire qu'on a le pouvoir nous aussi derrière de ne pas cautionner le dopage et malheureusement on le cautionne involontairement parce qu'on fait partie.
Mais dans ce cas-là, Cyril,
de la débâcle.
Dans ce cas-là, tu vas avoir les pupilles de les U13 en DH, quoi.
Et encore. Et encore.
Des fois, ils prennent de la vitamine.
Ce que je veux dire, c'est que tant que c'est pas avéré, on a aucune raison, tu vois. Mais à partir du moment où c'est des cas avérés, comme la Juventus en 96.
J'ai vu ça l'autre jour, France 2, après l'affaire Armstrong, là, quand il a été déchu, ils sont allés dans la rue, ils ont posé la question à un gamin de 6 ans ou de 8 ans. Il avait pas notre âge, il avait 8 ans. Ils lui ont dit, c'est qui ton cycliste préféré? Le gamin, il a dit, c'est Armstrong. Il a dit pourquoi? Il a pas dit parce qu'il, il a dit parce qu'il gagne. Voilà, c'est
bien
tout.
Sûr.
Il s'en branlait, le gamin, qu'il soit dopé, pas dopé, il a dit juste, Armstrong, il gagne. Voilà, c'est tout.
J'aimerais juste, passer un dernier coup de gueule et puis en conclure l'émission.
Malheureusement, c'est.
Passer un dernier coup de gueule avant de conclure dans cette émission. On a eu la très désagréable surprise en préparant donc cette interview de constater qu'aujourd'hui, alors c'est pas du tout une incitation que je veux faire, mais qu'aujourd'hui,
sur Internet.
Certains produits très connus, des produits dopants qui sont extrêmement connus sont en vente libre sur des sites Internet. Et voilà, c'est des choses qui touchent aussi évidemment. Alors on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Il faudrait qu'on fasse 4 heures d'émission avec le docteur pour pouvoir l'aborder. Mais le dopage dans le sport amateur est une vraie question également. Et évidemment, on espère que ce genre d'interview pourra dissuader éventuellement certains d'entre vous qui souhaiteraient un peu booster leur performance.
Le sport amateur, c'est pas le plus beau sport
et
qui existe.
Tacle à la carotide à 23h19 de Aymeric sur Cyril. Cyril s'abonne à l'UBB, le sport où il y aurait le plus de cas de dopage selon un rapport mis sous silence. Aymeric, Cyril, droit de réponse.
Voilà, merci monde. Rico, mais voilà. Je m'en fous. Tu peux me dire ce que tu veux,
mais on
peut en parler pendant des heures.
Je peux tacler Rico. T'as supporté l'équipe de France à 98. Bim.
Voilà. Allez, c'est bon les gars, on fait pas règlement de compte. Ça finit par une. Voilà, par
allez,
une.
Le clash de Rico série.
Allez, s'il vous plaît. On va terminer là-dessus. Les gars, je vais vous demander de faire vos phrases.
Oui. Déstresse, Clément.
C'est pas ça, c'est qu'il est 23h20 et que moi je bosse demain, les gars.
Mais moi aussi.
Oh là là. Voilà.
On est là, on est tous ensemble.
Seb, ta phrase.
Thibaut, ta phrase.
Quoi, ma phrase?
Vas-y, je réponds.
Mais Claude Béz a jamais le premier.
Ouais. Ah ouais, pour aujourd'hui, ça collait bien.
Tu vas te calmer, toi. Cyril. Tu ne manques pas de respect à Claude Béz, ok?
Le docteur de Mondenard a jamais le premier.
Le docteur de Mondenard a jamais le premier.
Très bon, ça.
Seb?
Bordelais, c'est pour toi que tu joues, mais c'est les tiens que tu représentes.
Allez, puis moi, c'est beau ça aujourd'hui.
Un slogan ouais. 100% propre, un seul animal la loutre, une seule mentalité insoumise vers Achille et... Allez, salut à tous.
À vendredi.
Bonne soirée à vendredi et on espère vraiment que ça vous aura plu. Ciao,
ciao. Ciao.
Attendez, le jingle, si le jingle est prêt.
Ciao.
Tous les lundis et vendredis de 21h à 23h, écoutez Gironde Analyse sur RIG en 90.7 FM et sur notre site girondeanalyse.com. Vous y retrouverez aussi les podcasts.